des concerts à bolo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat.
Débat. Débat sur Radio Esperanza. Débat. Débat.
Les médias sont uniformisés, les styles musicaux sont les mêmes partout, des artistes sont diffusés plus de 10 fois par jour. Pour l'offre de sorties culturelles, il en va de même ou presque. Comment propose-t-on et qu'est-ce qui marche? Ne se moquons pas de nous, en nous prémâchant tout et surtout ne pas nous faire réfléchir. Les médias savent ce qui est bon pour nous. Quelle survie dès lors pour les artistes qui n'entrent pas dans le moule? Souhaitent-ils eux aussi passer sur les gros méchants médias pour eux aussi bénéficier des retombées sonnantes et tribulantes des sociétés de droits d'auteur? Quelle survie et quelle visibilité pour les médias alternatifs? Qui sont-ils? Quelles alternatives proposent-ils? La mondialisation culturelle est-elle également en marche? C'est le débat d'aujourd'hui sur Radio Esperanza 106.2 autour de Floref, le dernier débat de cette édition 2015 d'Esperanza. Bonjour Manon.
Bonjour Déborah, bonjour à tous.
Bonjour.
On est très nombreux autour de la table, on va commencer un petit tour des présentations. Par la gauche. Dites-nous tout, collectif Krasny. On peut voir vos photos quand on arrive dans l'allée du festival.
Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, on a un collectif de photographes engagés qui relaie les luttes sociales de manière générale et toute forme de résistance par l'image.
Tous les trois.
Oui, on est trois. On est venu hier. Ah non, moi je suis venu.
Avant-hier,
oui.
Enfin bref, on n'en est plus là.
C'est Laure, Alex et Pierrot.
Et alors, de l'autre côté de la table, alors oui, en face de nous, il y a aussi Émilie et Alexia de Radio Esperanza, donc qui est aussi évidemment au niveau média alternatif. Je crois que Radio Esperanza, on est bien placé pour le savoir également.
Bonjour.
Salut.
Et à de l'autre côté de la table.
Moi, je suis Christiane. Je participe au magazine culte de FM 48. Et je suis plutôt sa parole, son slam. La mise en mode des transpirations que je vois autour de moi.
Donc moi, c'est Martha. Je coordonne le magazine culte. Culte, c'est un trimestriel édité par la radio associative 48 FM qui, ici, pour le festival, se fait quotidien.
Et donc... le dernier, moi, c'est Fred, et je m'occupe donc de 48 FM avec Martha qui est à côté de moi, qui est une radio associative liégeoise, qui est présente depuis pas mal de temps avec Radio Esperanza, ici à Esperanza, et qui cherche à développer plein de projets culturels, ou en tout cas essayer de valoriser toutes les alternatives culturelles, musicales et associatives qu'on peut trouver dans la région ou en Belgique.
Alors voilà, suite à l'intro un peu tarte à la crème, j'aime bien les intros tarte à la crème, on commence par la question finale, évidemment. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une mondialisation culturelle actuellement? Bon, on peut la poser en fin de débat et, et peut-être commencer par la question de savoir, nous on est tous donc finalement dans des médias alternatifs. Déjà, comment est-ce que vous, chacun, vous pouvez définir ce que c'est un média alternatif ou un collectif médiatique? Parce que mine de rien, la photo, c'est les médias. Comment est-ce qu'on peut définir un média alternatif? Je peux la poser en fin de débat aussi, hein, mais...
Vas-y, ça
Mais c'est une question qui en fait pose déjà débat, puisque tout le monde ne veut pas forcément se revendiquer en tant que média alternatif, mais comme média tout court. En fait, on se pose en média alternatif par rapport aux médias mainstream et à ce qu'ils proposent. Je pense que la chose la plus importante pour nous, c'est déjà d'être indépendant et d'assumer aussi notre parti pris, en fait, ce que les médias mainstream en général ne font pas. Vont se cacher derrière une pseudo-neutralité tout en finalement balançant de la sauce idéologique bien précise, tandis que nous on assume parfaitement le parti que l'on défend, quoi, et notre positionnement.
Du côté de culte,
ouais,
culte 48 FM.
Nous on avait envie d'autres choses aussi, on en avait marre de lire tout le temps les mêmes choses, et du coup, plus concrètement dans le magazine, ça se démontre. Dans les journaux mainstream, il y a un certain nombre de signes, par exemple, à respecter, un certain style. Nous, voilà, ça fait un peu patchwork parfois dans culte, mais chacun vient avec son propre style. au niveau des nombres de signes, par exemple, bah, c'est sûr, c'est restreint, mais tout ce qui n'a pas pu être développé dans le magazine est développé après en radio. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure des journalistes qui nous disent ce qu'il faut penser. Bah, nous, on essaye justement dans nos articles de poser des questions et donc pas arriver avec des vérités toutes faites, mais justement qu'il puisse y avoir un débat après lecture, quoi.
Alors là, la question, parce que voilà, vous faites partie du même média quelque part, mais en même temps, c'est une radio au départ qui s'est déclinée aussi sur le papier. C'est un besoin de pouvoir être sur les ondes, sur le papier. C'est deux vecteurs différents pour une même idéologie de départ, hein, ou les mêmes valeurs de départ. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce, entre guillemets, hein, ce dédoublement? Parce que vous avez des graphistes dans l'équipe et ça n'a pas quoi faire.
Non, je ne sais pas. On cherchait. En fait, ce qu'on essaie de faire généralement, c'est de faire une radio, certes, mais une radio qui est participative. Donc, n'importe qui peut rentrer dans la structure radio et proposer des projets. Donc, par exemple, tu as un projet de partir au Sénégal, monter une radio. Bah, c'est des gens de la radio qui l'ont proposé, qui soutiennent ce projet-là. Tu as des gens de la radio qui ont dit, bah, tiens, on ferait bien un magazine papier parce qu'on a envie de faire ça. Et on a fait ce projet-là à cause de ça. Donc, c'est un projet qui fédère aussi différents types de projets. Donc, c'est tout à fait par hasard. Je ne sais pas si c'est vraiment... Martha pourrait peut-être me répondre de ça, mais je ne pense pas que ce soit vraiment pour répondre à un besoin qu'on a senti à Liège, mais même si on a déjà pensé plusieurs fois essayer de monter un vrai, pas un quotidien ou un hebdomadaire, pour justement combler le manque d'objectivité ou d'intérêt pour certaines initiatives qui ne sont pas soutenues par la presse locale. Quoi.
Là, tu peux dire, moi je suis un peu une des personnes à projet. Donc, qui est venu avec une idée de théâtre ou d'oralité ou rejoindre quelque chose qui ferait partie de ce prêt de parole, de ce tu peux avoir quelque chose à développer, on va dire une action gifédactive ou je ne sais pas, on dit associatif. Tu parlais de mondialisation culturelle tout à l'heure, j'avais difficile de penser les mots. Culturel, mondialisation, parce que est-ce que c'est les deux mots qui définissent cet acte qui serait de dire ou de communiquer maintenant par rapport à ça, est-ce qu'il y a une mondialisation culturelle? Est-ce qu'il y a des notions d'alternatives culturelles? Par quoi on démarre? Donc, dès le moment où la parole est donnée, c'est un terme d'action dans le monde. Donc par rapport à ça, 48 FM, pour moi, au travers de mes rencontres, approche de comédienne, je suis comédienne à la base, tu as cette possibilité-là. Et ça a été quelque chose d'assez neuf, en tout cas au niveau du terrain de Liège, et même par rapport à ce qui a précédé, donc le terme 48 FM. Voilà, pour parler de comment moi je visualise cette invitation.
Mais je pense que c'est bien de... En fait, on est dans l'action. C'est bien de remarquer les choses, de râler, etc. Mais après, il faut proposer du changement, quoi.
Et justement, vous êtes un peu des médias qu'on pourrait dire en résistance. Il y a beaucoup moins de pognon que dans le mainstream. Il y a, je me tourne vers Krasny. Comment on fait au quotidien pour en vivre, pour se maintenir, justement pour ne pas être happé par cette... on ne va pas l'appeler mondialisation culturelle du coup, mais par cette grosse machine de la presse, des médias, de la culture.
Déjà, on se finance nous seuls, quoi. C'est nous tous qui cotisons pour le collectif. Des fois, on trouve du travail. On ramène l'argent aussi au collectif comme ça. Et puis voilà, on doit se débrouiller, quoi. Puis on a lancé une revue pour la vente, pouvoir ramener aussi de l'argent au collectif, etc. Mais ouais.
On travaille tous à côté pour pouvoir manger tout simplement, mais c'est aussi quelque part une indépendance, ça nous permet une certaine forme d'indépendance en fait, c'est voulu, mais effectivement, pour pouvoir le maintenir, ça demande de trouver du temps, de l'énergie, et puis c'est une envie aussi non, de transmettre quelque chose, c'est un choix, c'est un positionnement je pense.
Mais du coup, on a l'impression qu'il y a quand même deux mondes. Il y a le monde justement des médias qui ont pignon sur rue, qui offrent une certaine, offre, oui, voilà, culturelle, oui, mais après, parfois il y a des synonymes qui manquent. Donc, qui proposent une offre culturelle qui est quasi partout la même. Alors, vous, dans vos médias respectifs, alors comment est-ce que est-ce qu'on veut se mettre en porte-à-faux ou est-ce qu'on connaît et on se dit qu'il y a des choses, d'autres choses qui existent qui en valent la peine? Comment est-ce que ça se passe dans vos choix de sujets, dans vos choix d'offres, de ce que vous proposez?
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
Je suis occupée à me dire qu'en fait, j'ai pas...
mais pour notre part, en tout cas, on fait ce qu'on a envie, puis on saisit l'actualité. Hein. L'idée, c'est de relayer.
Mais voilà,
ce
mais
qui
l'actualité, on voit l'actualité dans le journal, au JT, au JP. On l'entend. Il y a des luttes, par exemple. C'est clair pour vous. Il y a des luttes dont on ne parle pas dans ces médias. Alors, ça se passe. Est-ce qu'il y a un réseau comme ça, un réseau alternatif souterrain?
Justement, pour revenir à la première question, c'était c'est quoi la différence entre les médias alternatifs et les médias mainstream, on va dire? C'est aussi le choix des sujets. Et c'est surtout ça, je pense, le choix des sujets et le point de vue. Et par rapport à ça, nous, on se positionne surtout sur les mouvements sociaux. Et ça, ça va être notre choix principal. Et puis le point de vue qui est différent aussi par rapport aux photographes qui se trouvent, les photographes des journaux, les photojournalistes. Ils sont toujours éloignés, ils sont toujours été l'objectif, ils prennent un point de vue derrière la police ou des choses comme ça. Et nous, on va être plus dedans, etc. Enfin, par rapport à ça, le point de vue change. Quoi.
Mais pour être au courant, c'est réseau militant. Hein. Enfin, à partir du moment où on s'intéresse à ce qui se passe socialement, on est vite au courant des mouvements, des grèves, etc. Donc ça nous permet de...
Il y a aussi tout le mouvement des sans-papiers, je veux dire...
On a tous nos petits réseaux. On va dire. Et on est beaucoup. On a tous des convictions politiques différentes dans le collectif. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir contact partout et diversifier aussi les sujets. Quoi.
Et vous couvrez pas que la Belgique?
Non, on a aussi des photographes en Espagne.
Barcelone, c'est ouais. Ça ouais.
On a des photographes en Espagne.
Et en France?
J'avais envie de dire que c'était aussi. Moi, pour le moment, j'ai un peu choisi la chronique. Donc c'est aussi aller chercher dans le terme résistance, chercher ce qui se développe, chercher à informer, chercher aussi voir comment ça se différencie. Le réseau n'arrête pas de se renouveler, puisqu'en fait, l'action communiquée donne une force, fait adhésion, fait lien, et donc ça rebondit, et donc ça réaugmente, et donc ça se transfère un peu comme ça à l'infini. Dès le moment où je me suis intéressée au terme de résistance, mais moi ça m'a mené un petit peu à tourner dans le monde en fait, parce que chacun amène le lien, l'intérêt, l'invitation, et de fait tu le racontes, et donc tu le portes en le racontant, quoi. Je me souviens quand je suis allé en Palestine, que la grande préoccupation qu'ils avaient à l'époque, on parle ça de 2009, c'est de savoir s'ils étaient dits en Europe, donc si on savait ce qui se faisait. Et c'était d'ailleurs pour ça, en fait, que c'était invité. Donc, très souvent, les gens se retrouvent terriblement isolés. Donc, le fait d'aller vers cette notion de résistance et de recréer le réseau à l'infini permet de le dire et de le tisser. J'ai envie de dire.
Côté 48 FM Culte.
Alors, c'est possible de répondre à ta question. En gros, ce que nous, on essaie de faire aussi, c'est un peu le cas, je pense, pour pas mal de radios associatives, c'est pas spécialement de se poser comme une alternative, un truc comme ça, mais de proposer des formats qui ne sont pas spécialement mis en avant sur d'autres radios. Donc, par exemple, il y a Alexia qui est là, qui parle aussi souvent de... je sais pas si tu veux parler un peu de ce que tu fais comme émission.
Oui, je pourrais en parler. Moi, ce que je fais, je fais des chroniques aussi d'une dizaine de minutes à propos de l'actualité écologique. Mais par rapport à tout ce qui se dit là, ce que je constate aussi, même par rapport à moi, c'est que c'est déjà un engagement politique et militant qui se passe au niveau de la personne individuelle et qui fait qu'après, que ce soit d'une manière artistique, en termes d'image ou en termes de son ou en termes de peinture ou en termes de performance de théâtre, je pense que c'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de soi-même et des choix qu'on fait par rapport à une société, à un monde qui nous entoure, quoi.
Alors en gros, c'est dans des médias comme ça, on fait ce qu'on veut, quelque part. On fait ce qu'on veut comme on le veut. C'est un peu ça finalement le...
Ouais, pour notre part, on a une charte, des lignes directrices sur lesquelles on se retrouve. C'est pas, c'est pas l'idée de faire tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de se retrouver autour de certaines valeurs, de certains points de vue militants, engagés au sein d'un collectif. Donc on fait des choix en commun, même si évidemment la liberté individuelle, le choix des sujets importe à chacun d'entre nous et qu'il y a une liberté dans ce sens-là, mais malgré tout, on a certains axes.
Dans le sens, on fait comme on veut, on définit pas de format préétabli, on essaye peut-être justement s'offrir même une liberté.
Bah, c'est ça qui est hyper important aussi dans ce genre de médias, quoi, c'est de laisser laisser un champ ouvert à la créativité et à l'imaginaire. Et je crois que on a vraiment besoin urgemment de ça, quoi. J'ai l'impression, en tout cas.
Ouais.
Absolument.
Moi, je crois que la résistance, elle se fait aussi dans le fait que cette liberté qu'on a, ça permet aussi de toucher des gens qu'on ne toucherait pas nécessairement. Je veux dire, il y a des gens qui viennent faire de la radio chez nous qui ne sont pas du tout dans cette résistance-là. Et voilà, et on partage des choses et ça amène d'autres discussions, etc. Mais je veux dire, il ne faut pas tout le temps prêcher les convaincus non plus. Je veux dire, ça nous permet d'avoir une certaine ouverture, quoi.
Justement, il y a un peu cet argument que ce soit des grosses librairies, des gros festivals de musique, des journaux, des gros quotidiens qui disent « Ouais, ok, on raconte tous la même chose, etc. » Mais en même temps, c'est le public qui demande. Je pense que vous êtes tous confrontés à un autre public qui demande aussi. Ce n'est pas uniquement vous qui éveillez la curiosité. J'imagine qu'il y a aussi une soif de voir autre chose où il faut quand même aller tirer un public désintéressé à la base.
Mais je crois que beaucoup de médias prennent les gens pour des cons, tout simplement. Voilà, c'est l'a priori qui se font sur les gens, mais les gens, ils ont envie d'autre chose. Les gens, ils ont envie de réfléchir, de comprendre et de voir des belles choses. Quand tu lis, tu as envie de ressortir une émotion et peut-être après d'aller voir plus loin, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tout simplement.
Je pense pas que les gens demandent autre chose, hein. Je pense qu'ils il faut leur proposer pour pouvoir se rendre compte qu'ils ont peut-être besoin d'autre chose. Et parce que je pense pas que quelqu'un qui ne connaît que la télé, il verra que la télé, il pense pas qu'il y a autre chose qui existe, quoi. C'est ça le.
C'est un peu réducteur aussi, ça, non? C'est réducteur par rapport à justement,
normal,
on nous prend pour
normal.
Des cons. Donc là aussi, c'est une façon de prendre les gens pour des cons, de se dire ils vont garder des œillères qui sont rivées sur la télé, par exemple.
Je pense que quelqu'un peut pas se libérer tout seul si on ne propose rien. Enfin, dans le sens où on a besoin de lire, on a besoin de s'informer, on a besoin de choses. Enfin, soit on le découvre de nous-mêmes, on va le chercher, soit on nous le propose, quelqu'un vient à nous et nous le dit « Regarde, j'ai quelque chose à te proposer, lis ça peut-être et ça va peut-être te faire réfléchir. » Et je pense qu'avec les médias, c'est la même chose.
Mais c'est peut-être clair qu'il faut proposer de nouvelles choses.
Donc il faut aller chez les gens, montrer.
Et par exemple, nous, travailler sur le visuel, ça nous permet aussi d'avoir une autre porte d'entrée,
ouais.
De travailler sur le graphisme, d'intégrer des artistes dans la mise en page, tout ça, ça nous permet justement de proposer autre chose. Aujourd'hui, on est dans un monde d'images et la lecture, elle doit être ludique pour nous.
Ouais.
Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était la notion de toucher les gens, d'aller vers eux et d'appuyer sur quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et pas forcément du rationnel ou du reçu. Enfin, je sais pas, moi, si on repeint une maison qui a été grise toute sa vie, on la peint en rose fluo tout d'un coup, les gens, ça va leur provoquer une émotion. Et dans j'ai l'impression qu'autour de la table, ce qui revient beaucoup, c'est qu'on a décidé de proposer des formats un peu différents en privilégiant le contenu. Et le contenu, c'est l'émotion. Et que l'émotion, c'est ce qui relie les gens dans le monde.
Ouais. Le contenu et la forme aussi, parce que je pense que c'est vraiment important pour susciter une émotion. Justement, il faut que le texte il soit mis en valeur, il soit travaillé graphiquement aussi, je pense.
Oui, je pense juste que ce que voulait dire effectivement Alex, c'est le constat duquel on est parti au départ, c'est-à-dire il y a un manque terrible au niveau pour notre porte de l'information et de l'image qu'on montre des mouvements sociaux de manière générale. Il y a une désinformation à ce niveau-là et nous, on veut justement combler ce vide et proposer autre chose.
Toute autre chose, mais pas n'importe quoi. Ah, on ne l'a pas encore dit aujourd'hui. On va peut-être se passer un petit morceau de musique pour après aborder la deuxième partie de ce débat sur Radio Esperanza.
Forget all that's said and done. When your heart's a lonely one, and see, my dear, that heaven is a place where never I recall your face. Life can be so lucky now, some may win and others don't know how, but I could drop my losing hand with grace. Whenever I recall your as a look I recognize, a glance that leaves me dancing polonaise. Whenever I recall you, if ever I recall. Thank you.
Toujours sur Radio Esperanza, on est nombreux autour de la table pour parler de la culture. Quelle place pour la culture qui soit autre qu'une culture mainstream, uniformisée, tout homogène. On a le collectif Krasny de photographes qui sont avec nous, Émilie et Alexia de Radio Associative et l'équipe de Culte et de 48 FM. On a déjà bien discuté avant pour reprendre par rapport à cette première partie. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on parle aussi d'une espèce de nécessité de ralentir. J'ai l'impression que tous les gens autour de la table ont juste décidé de prendre un peu le temps, en fait, le temps d'écrire, le temps de raconter des choses, le temps ici de faire un débat d'une heure sur cette question, le temps aussi d'aller au cœur des résistances et pas juste de prendre la photo de presse qu'on retrouvera dans toutes les unes des journaux. Voilà, est-ce que c'est pas ça un peu le... Si c'est la pub pour les médias mainstream, le nerf de la guerre, est-ce que c'est pas la lenteur pour tous ceux qui sont autour de la table?
Ouais, on est... La lenteur par rapport à la diffusion?
La lenteur de... Enfin, la lenteur. Pas qu'on soit tous des escargots, mais le... Prendre du temps.
Prendre du temps.
Bah, moi, je pense qu'il faut s'adapter. Bah, les gens demandent des choses qui vont vite. Ils demandent des articles qui vont vite. Et... Enfin, c'est triste à dire, mais je crois qu'il faut s'adapter et essayer de faire aussi vite. Pas, peut-être pas aussi vite.
Moi,
mais...
je suis pas d'accord.
c'est pas grave. Mais voyez, non, je pense qu'il faut vraiment s'adapter parce que sinon, les gens ne regardent pas.
Non, mais en termes de réactivité d'actualité, tu veux dire?
Oui.
Après, on prend le temps. Quand on va voir les sans-papiers, on prend le temps de discuter avec eux. On passe pas à prendre trois photos.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est autre chose. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le. Mais c'était non, c'est ça qu'on disait en fait
je
par rapport à la lenteur. Parce
dire,
qu'il y a aussi par rapport à la diffusion, enfin par rapport à la transmission de l'information.
Ouais, vous êtes sur la balle au niveau des voilà. Sujets que vous
si
couvrez,
exemple,
mais quand vous êtes sur place, vous y restez
ouais, non,
pas
bien
une
sûr.
Heure.
Mais ouais. Si par exemple pendant un mois, enfin ce qui vient de se passer maintenant, on ne publie plus d'articles, bah, les gens suivent moins, on dépend d'Internet, on dépend de Facebook, etc. Et forcément après on dépend d'un certain rythme, quoi. Mm-hmm. Et donc oui, enfin le temps nous court derrière, quoi.
Mais je te rejoins totalement sur le fait qu'effectivement, on prend plus le temps que les journalistes traditionnels qui vont venir, qui vont prendre trois photos. On essaye de rentrer en contact, de comprendre, de connaître, de créer des relations avec les gens qu'on suit et les reportages qu'on fait. Ça demande de prendre du temps d'office. Et c'est ça qui fait aussi beaucoup de la différence par rapport à cette rentabilité ultime où les journalistes aujourd'hui vont prendre trois photos sans même se poser la question de qu'est-ce qui se passe, de ce que veulent dire les gens. Et effectivement, ça demande de prendre du temps que de réellement relayer ce qu'on voit et ce qui se passe.
Bah, il se passe la même chose en radio, j'imagine. Enfin, oui, non, j'imagine, oui, je le sais. On écoute un JP sur les gros médias. Ils vont nous développer un sujet en 1 minute 30 si le journaliste a de la chance, quand c'est pas en du 20 secondes ou presque, en radio essentiellement. Hein. Donc 1 minute 30, c'est le plus gros format pour un JT. Niveau radio associatif, je suppose qu'il y a aussi une réactivité par rapport à ce qui se passe. S'il y a une occupation de sans-papiers, vous serez quasi les premiers aussi sur place, mais le traiter peut-être différemment, pas en 1 minute 30.
Ça serait traité de manière beaucoup plus longue, mais ça aussi, qui dit radio associative dit aussi des bénévoles principalement. Et donc du coup, s'assurer que s'il y a un événement directement entre quelqu'un sur place, c'est assez peu probable parce qu'il faut d'abord trouver la personne qui voudra bien le faire, voir s'il a le temps, s'il n'est pas à son boulot, etc. Donc c'est, en termes de temps, je pense que le temps se met différemment dans une radio associative ou une radio commerciale ou privée ou autre. Par exemple, chez nous, bah, on mettra plus le temps sur, effectivement, comme vous avez dit, le contenu, ce qu'on met dans les émissions, etc. Mais les radios commerciales ou les radios même publiques mettent aussi énormément de temps et de moyens pour leur contenu, mais eux vraiment sur des trucs d'analyse, de pourquoi est-ce qu'on met telle chanson et pas une autre, pas parce qu'on a fait une étude sur je sais pas, 25 personnes. En gros, les radios, par exemple, tous les 15 jours, souvent en panel, avec un panel d'auditeurs, ils choisissent les titres qui vont sortir de la playlist parce qu'ils ne sont pas assez passables pour le public, parce que ça choque leur public. Ils vont mettre un temps dingue à essayer de trouver les sujets qui vont être les plus passables pour le truc. Donc eux mettent aussi énormément de temps, nous simplement on le met différemment. Je ne sais pas si on n'est pas plus lent en termes de réflexion, comme toi tu voulais le dire, pour on pose pas plus la réflexion sur la longueur, mais simplement on met le temps différemment. Je sais pas si c'est clair ou quoi. Mais...
Je pense qu'il y a aussi le... Je sais pas, j'ai interrompu quelqu'un. Non. Désolé. Justement, prendre le temps, justement. Quoi. Il y a aussi le temps de l'information, sur le plan du réel, qu'est-ce qui importe, qu'est-ce qui est au-dessus, d'en dessous. Et puis il y a le cœur, le temps du cœur de l'être, tout simplement. Je pense que j'aurais pu difficilement penser une émission poétique, par exemple, de la poésie, s'il n'y avait pas un certain temps donné à une approche, quelque chose qui s'est ôté de la grande dimension de la culturelle depuis longtemps. Quoi. Donc ça veut dire qu'il faut le temps de cette culture qui parle de ce que l'autre propose. J'aurais parlé de nouveau de spécificité. Donc en termes de prise de temps, je dirais que la radio associative telle que ici je la vis, même pas uniquement, des radios plus petites, à dimension plus petite, comme Campus Bruxelles ou Panique, ou je ne sais pas, moi, les Bellules, enfin celles que j'ai croisées de ci, de là, quoi. Ou même des radios d'occupation. Forcément, le temps est différent, puisque quelque part, c'est l'autre qui relate, qui chronique, qui se relaie, qui se dit. Donc s'il n'y a pas le temps, ben, forcément, on va faire comme l'autre. Ou essayer d'être efficace, ou des choses, ou d'être réactif, aussi performant que l'autre. Si on enlève ces mots-là, il y a d'autres choses qui se passent forcément.
Émilie.
Oui, en parlant de temporalité, il y a quelque chose qui se disait aussi hors antenne, qui est un autre aspect du temps, où on parlait de qui est-ce qu'on touche avec des médias qui ne sont pas des médias mainstream, et est-ce qu'on arrive à étendre et à parler à des non-convaincus de plus en plus. Et j'ai l'impression que cette temporalité aussi de... on ouvre le réseau à qui on s'adresse, c'est une autre temporalité aussi que les gros médias qui circulent tout autour. Enfin, je sais pas s'il y en a qui veulent réagir là-dessus, mais j'ai l'impression que les ricochets qui se font sont aussi autrement. Enfin, ils sont pas moins efficaces ou plus efficaces, ils sont juste... c'est dans une autre temporalité, vraiment.
Il n'y a pas de matraquage, déjà.
Non. Ouais.
Et qui fonctionne par rencontre humaine. Enfin, c'est ce qu'on se rendait compte. Ben, le collectif Krasny disait que c'était dans des manifs, dans des rencontres, dans le social, en fait, que la diffusion se faisait, et pas forcément avec une pub sur je ne sais quelle chaîne.
C'est vrai que je ne sais pas si on se pose beaucoup de questions finalement, en tout cas en termes de qui est-ce qui nous écoute, est-ce qu'on nous écoute. Je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs qui viennent simplement avec leurs envies et leurs passions et qui la transmettent, et que c'est ça qui marche, quoi, simplement.
Qui est aussi ce côté peut-être dans tous nos médias là, qui sont autour de la table, c'est de faire ce qu'on nous-mêmes, en fait ça devient quelque chose d'un peu égoïste, hein, c'est peut-être on fait ce que nous, ouais, on aurait envie d'entendre, de voir.
Il y a de ça.
Après,
ouais.
On est hyper égocentrique.
Ben, hyper humain, quoi, oui. Hyper se disant, hyper humain, quoi. Parce que, évidemment, qu'est-ce que c'est que cet acte de donner à voir, donner ce qui est dit, bon, c'est l'acte humain, c'est l'acte du lien, quoi. Donc, on est hyper dedans, il me semble, quoi. Ce n'est pas donner comme tu dois le penser, le monde. C'est donner comme il me percute et je te le donne, avec moi, ce que j'emploie pour le donner, quoi. Voilà, donc ça me semble assez être essentiellement humain plutôt qu'égocentrique.
Non, mais justement, ça, c'est ouais, vachement plus beau, parce que là, du coup, ça fait c'est tout à fait le contraire. Je préfère ta version des faits. Ça donne en effet une dimension beaucoup plus humaine. Après, tu dis, Martha, qu'on ne réfléchit pas à qui nous écoute, à qui nous regarde, à qui nous lit. Mais pourtant, c'est quand même une question qui est souvent posée. Et vous, par exemple, vous diffusez vos photos où, comment?
C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Évidemment, grâce à Internet, je pense qu'on en est là où on en est aujourd'hui, grâce à ce billet-là, parce que c'est un média qui nous permet vraiment de transmettre beaucoup plus rapidement et à beaucoup plus de monde, finalement, notre travail. Après, on a sorti donc notre premier livre, notre première revue, Tension. Voilà, on a eu quelques expositions là cette année, et on va continuer au Festival des Libertés, et puis après on
logique,
verra.
Logique, mais voilà, c'est des endroits qui restent, comment je vais dire ça,
fermés.
Non, qui restent
engagés, enfin marqués.
Oui, voilà, ouais, engagés, quoi. Ça reste des endroits, oui, voilà, engagés. Tant mieux, hein. Il faut qu'il.
Non, non, pas tant mieux. Non, 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 justement, moi je pense qu'il faut justement élargir plus de ça. Mais on cherche à le faire et on y réfléchit encore. Maintenant, on va pas tout dévoiler, je crois, ici. Mais oui, je pense que c'est important de dépasser. Parce que souvent, on reste trop dans les milieux engagés, dans les milieux militants, etc. Et finalement, ce qu'on veut toucher, au final, c'est tout le monde, quoi. Enfin, c'est un maximum de personnes.
Une double page photo dans un quotidien national, vous l'accepteriez ?
Ça dépend pourquoi.
Ça dépend combien ?
Ça dépend surtout du message. Si on peut véhiculer notre message et notre positionnement, que ça ne soit pas, certainement pas dans l'idée d'être d'une utilisé pour criminaliser quoi que ce soit.
Même le type d'image qu'on va diffuser va toucher des personnes différentes. De quartiers différents et des images plus abstraites ou plus artistiques vont toucher plus des milieux intellectuels ou des milieux qui sont déjà dans l'art, dans les milieux artistiques, etc. Et puis des photos plus choquantes vont toucher les milieux plus populaires, des photos choc directes, genre les polices qui frappent sur les gens et tout. C'est des trucs qui parlent plus dans les quartiers populaires, ça parle plus à des jeunes qui rencontrent fréquemment la police ou quoi. C'est un truc sur lequel on réfléchit souvent. Est-ce que c'est pas aussi une forme de matraquage de montrer des images choquantes comme ça, comme de la pub en fait, de la contre-pub, on va dire.
En même temps, c'est à ça qu'on est habitué au quotidien. Donc, tu vas pas. C'est avec vous qu'on parlait d'ailleurs. Tu vas pas faire des photos de. Enfin, tu vas pas mettre des petits chats dans tes photos de lutte pour. On est habitué aussi il y avait quand même, c'était Paris Match qui avait comme slogan le poids des mots, le choc des photos. Mais c'est clair qu'une photo, pour qu'elle touche, il faut qu'elle touche quelque part. Et souvent, c'est par aussi le fait de confronter la personne qui regarde à quelque chose qui la touche. Même si c'est violent, je veux dire.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta catégorisation comme ça des gens ou des choses. Eux, ils seraient plus touchés par telle ou telle image. Je pense que vraiment, ça ne se calcule pas, quoi, ça. C'est quelque chose qui te touche ou pas, mais je ne sais pas.
Non, mais moi-même, je viens des quartiers populaires. Ce qui touche les gens, je sais qu'il y a certaines choses qui les touchent et certaines choses qui ne vont pas les toucher. Et si on se ramène avec des photos surintellectualisées, moi j'en suis conscient quand j'en fais que je sais que je ne vais pas les toucher, que ça ne les intéresse pas. Ils en ont que foutre de voir des...
C'est pas un peu les prendre pour des cons, justement, de
Non, pas
de
du tout, il
n'y
a pas de jugement. Mais non, parce que depuis tout à l'heure, on a l'impression que je fais des jugements comme ça. Mais non, pas du tout. Non, mais je pense que c'est quand même... C'est juste différent.
Ouais, mais c'est assez réducteur de mettre... C'est très généralisant que de dire il y a les gens des quartiers populaires et les gens intellectuels qui vont être touchés par telle image. Je pense que c'est un peu plus nuancé que ça et plus.
Non, bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr. Personnellement, je cherche à combiner les choses et j'essaye de. Enfin, moi, je suis plus attiré par les gens des quartiers populaires plutôt que commencer à venir avec des trucs abstraits. Finalement, il y a que les gens qui auront par exemple l'argent pour payer une exposition et venir regarder des photos abstraites qui au fond valent rien dire, quoi.
Mais du coup, tu te dis je vais photographier comme ça parce que je veux toucher ces gens-là.
Parce que je préfère toucher des personnes qui ont moins accès aux médias alternatifs, entre guillemets.
Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça pose quand même la question de l'accès et qui se pose aussi, je trouve, au festival Esperanza. Il y a des super idées qui passent, il y a de la super musique, etc. On peut quand même se poser la question de quel public est présent.
C'est limité.
Et ça se pose, le Festival des Libertés, vous allez exposer. Ouais. C'est incroyable, mais quel public qui à Bruxelles a accès à ça ?
L'entrée est payante.
Et donc comment faut-il culte, c'est pareil, qui c'est accessible dans ce que vous proposez. Enfin, je veux dire, c'est pas intellectuel ou. Faut pas un bagage culturel incroyable, mais ça pose quand même qui a accès à ça aussi.
Comme nous, on essaye de travailler avec des écoles, par exemple, à la radio. Je sais pas si tu veux rajouter un peu là-dessus, mais ça nous semble important de sensibiliser, par exemple, les enfants du secondaire, et peu importe qu'ils soient du général ou de c'est plus des rencontres avec des profs qui disent tiens, ça pourrait être intéressant, qu'ils voient
comment ça se passe, comment ça se passe la radio, et voilà.
Il y a aussi une notion de gratuité. Je pense que la gratuité aussi fait échange, quoi. Donc la gratuité, où les choses sont posées, où elles sont transmises et comment elles sont transmises. Alors on pourrait dire, oui, d'accord, par Internet, par réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que dans les quartiers populaires, tout le monde a accès à Internet, tout le monde a... Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on donne accès à cette culture qui serait l'alternative? Oui, ça c'est clair que c'est encore un grand chemin à créer. Il se creuse, parce que même si on pense Esperanza, comment effectivement, dans un quartier populaire, on pourrait dire de 3 ou 4 enfants, comment payer les entrées, comment est-ce qu'on fait, donc qui y entre, donc quelque part, à qui donnons-nous cette culture, cette...
Mais la question de la gratuité, je trouve que c'est un élément qui est important et qui est intéressant, mais c'est vraiment pas le seul, parce qu'il y a, plein d'initiatives qui sont faites pour rendre les choses accessibles, et pour moi, il y a vraiment une notion de sensibilisation et d'éducation à des médias autres, qui sont comme on apprend à lire, on ne sait pas lire tout de suite, on doit d'abord apprendre B, A, B.A., et puis après, on arrive à lire, et que ce soit au théâtre, que ce soit dans des documentaires, même des blogs, enfin, les blogs, c'est hyper accessible, et pourtant, on n'y va pas forcément, parce que, ben, quelle clé on a, comment, enfin, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, même les gens sensibilisés sont des fois paumés par l'offre, et du coup, comment est-ce qu'on on crée aussi des réseaux collectifs pour rendre ça...
Oui, les langages, ouais.
Pour dire, ben voilà, c'est pas si compliqué, en fait. Vous pouvez passer la porte, c'est pas blindé.
Une des grosses questions, c'est aussi vraiment, comme tu l'as dit, c'est l'éducation, même des gamins aux médias. Par exemple, quand on fait des ateliers dans les écoles, on se rend compte parfois bêtement qu'un gamin de, je sais pas, 16-17 ans est incapable de faire la notion de distinction entre les sujets, le traitement des sujets, par exemple, du journal RTL et du journal RTBF, par exemple, qui est excessivement différent. Il voit pas la différence. Pas que bah il y a un traitement peut-être plus sensationnel sur l'une et pas sur l'autre, par exemple.
Il y a plus beaucoup de différences aussi, peut-être.
Parce qu'on n'est pas éduqué.
Ah, quand même, mais tu vois, je veux dire, il y a quand même voilà, tu as quand même une différence de traitement, et à partir du moment où ils sont pré-adultes et qu'ils sont pas formés même à l'école à ce genre de choses, c'est déjà en soi un problème. Donc la question de l'éducation aux médias dans les écoles est déjà quelque chose d'excessivement important, il me semble.
Oui, d'accord, mais justement, il faudrait déjà que dans les quartiers populaires, il y ait eu la pensée gouvernementale de se dire qu'il y aurait une éducation aux médias, donc qu'il y aurait quelque chose qui dirait qu'en fait, le gouvernement manipule le peuple. Et ça, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui a été violemment, enfin, en tout cas, pour ma génération, violemment occulté. Déjà, il n'y a que parler de savoir les colonies, etc., etc. Bref, les couches et comment est donnée l'histoire, qui était tellement déviée. Que repenser, c'est un peu la question qui est posée dans le tableau de l'évidence des possibles, effectivement, comment est-ce qu'on repense l'école tout ensemble, l'éducation, l'échange, le savoir, et je redis, comment on se dit les uns les autres, du quartier populaire à la vie intellectuelle, comment est-ce qu'on définit tous ces liens, tous ces liens qui nous situent, quoi, de ces conversations, ce conversant.
Et Krasny, est-ce que vous touchez, par exemple, les gens que vous photographiez? Vous êtes au cœur des luttes, est-ce que ces gens en lutte vous font des retours?
Bah, de ouais. plus en plus, et puis on a de plus en plus du coup de demandes aussi par ce biais-là, de gens qui auront vu le travail qu'on avait fait sur telle et telle lutte, et puis qui vont nous contacter parce qu'eux-mêmes sont en résistance et qu'ils ont envie qu'on parle d'eux tout simplement, et donc qu'on relaie leurs paroles. Donc oui, c'est le cas des sans-papiers aussi. Ouais, grâce à ce biais-là, grâce au fait qu'on soit sur le terrain et qu'on donne la parole à ces personnes, bah, ces personnes de plus en plus nous contactent.
Alors quand on parlait d'éducation aux médias, c'est vrai qu'actuellement dans les écoles, quand on parle d'éducation aux médias, on leur achète le JDE, donc le journal des enfants, qui est pas mal fait, hein, ma foi, mais qui en fait reprend juste les gros titres de tous les journaux et qui en fait un résumé accessible aux enfants. Donc on a l'impression que une éducation aux médias à l'école actuellement, c'est plus une éducation à vous allez comprendre les articles que vous allez lire dans les gros médias et vous allez comprendre ce que vous allez voir à la télé. Ce qui, ma foi, n'est pas vraiment l'idéal. On serait plutôt d'avoir une éducation critique aux médias. Mais alors, par rapport à nos médias, à nous, je pense que aussi, je suis plus très neutre là, du coup.
Je ne suis plus.
Comme si j'avais déjà été. Mais donc, on a souvent l'impression, quand on parle avec les gens, pas les gens comme nous, hein, les autres, que justement, l'idée qu'ils se font de nos médias, c'est peut-être par le fait qu'on accorde plus de place à la parole, à l'expression et aux gens, finalement, à l'humain, que du coup, on est des médias élitistes, des médias intellectuels. Alors, on passe pas la la musique dans les radios, par exemple, qu'on passe ailleurs. Donc, du coup, alors, mon Dieu, vous êtes juste qu'une bande d'intellectuels, vous intellectualisez tout, même la musique. Et, ou alors, on est carrément taxé de socialisme, de communisme. Ouais, enfin, bref, on est des trucs de gauche, voire des anarchistes. Ouais. Je ne sais pas si vous avez la même. Il y a cette connotation, là, vous êtes un média, donc. Qu'on garde quand même sous l'étiquette alternative. Donc vous êtes de gauche, vous êtes des intellectuels qui voulaient faire la révolution. Ça, c'est pour faire le gros résumé.
Et c'est pour ça aussi que dans la première question que tu avais posée, moi j'avais répondu, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec l'étiquette alternative parce que ça renferme justement derrière une étiquette alors que finalement on ne fait rien d'autre que relayer aussi de l'information, faire diffuser des émissions culturelles. Comme le font d'autres médias, simplement, on affirme tout simplement une façon de faire. Et donc, je pense que c'est encore tout un boulot, hein, justement, de pouvoir se défaire des étiquettes et des catégorisations, et puis d'aller. D'être plus largement visible, écouté, vu, entendu.
Je pense que nous, on n'est pas spécialement catégorisés en tant que tel, parce que nous, on fait des photos, et du coup, l'image est beaucoup plus accessible. Qu'un texte ou qu'une radio qui prend du temps à regarder. Une photo, ça peut se regarder en 2 secondes, ou même en 10, ou on peut rester calé dessus pendant 5 minutes.
Mais on est catégorisé.
Bah oui,
c'est sûr.
Et rien qu'avec votre look et votre tête, je vous jure.
mais on est peut-être catégorisé sûrement par d'autres intellectuels, des intellectuels de droite qui sont là, bah ouais, vous êtes des photos de gauche, enfin, voilà, logo rouge, machin, tout ce que vous voulez. Mais je pense que. Je pense que c'est plus accessible, la photo. Et du coup, on aura moins de... J'ai perdu mes mots, mais je pense
que mais est-ce que c'est plus accessible ou est-ce qu'on a plus l'habitude de lire des photos dans notre société d'aujourd'hui que des textes ou des sons ou du théâtre?
Ouais, il y a de ça. Bien sûr. L'audiovisuel, tout ça. Enfin, même plus facile les photos que l'audiovisuel parce qu'une longue vidéo, c'est aussi difficile à regarder. Pas parce qu'on a l'habitude de regarder le journal où on a un article qui fait 30 secondes, même pas, quoi, 15-30 secondes. Et quand nous, on fait une vidéo, bah, c'est 1 minute 30. Et déjà, 1 minute 30, c'est beaucoup.
C'est long.
Ouais, c'est long. Alors que,
il faut réfléchir, du coup. Il n'y a pas de commentaire dessus.
Il faut raccourcir le truc parce qu'il faut aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut pouvoir s'adapter aussi à la demande des gens. Moi, je vois une vidéo sur YouTube qui fait 10 minutes, je réfléchis deux fois avant de la regarder, quoi.
Mais nous, dans Culte, c'est aussi cette... L'art, c'est aussi le dessin, c'est aussi cette porte d'entrée-là. C'est que il y a des gens qui prennent le magazine juste pour les images, juste parce que c'est vrai, il y a des rubriques qui s'appellent Experiment où l'artiste il fait ce qu'il veut, donc les gens ça leur plaît, ils ouvrent, ils prennent juste pour ça, et puis après ah bah tiens il y a un article sur ça, bah voilà ça m'intéresse et j'approfondis, mais c'est une autre porte d'entrée, quoi.
Non. Alors on disait tout à l'heure on a. Donc voilà, il faut déconstruire cette idée reçue, ces idées reçues-là. Et que peut-être, finalement, on a beau cracher dessus, mais voilà, on va revenir. Les réseaux sociaux, est-ce que vous en... Enfin, Internet, on va aller même plus large. Est-ce que Internet, pour vous, est un vecteur que vous utilisez, un outil que vous utilisez, justement, pour toucher plus de gens? Et comment ça se passe, du coup? Tu peux la poser en fin de débat, mais on est en fin de débat.
Non, mais c'est clair. De notre point de vue, c'est grâce à Internet qu'on a pu aussi rapidement se faire connaître et aussi rapidement justement avoir des infos, savoir réagir, rebondir. Et puis c'est grâce à Internet aussi qu'on a pu faire notre appel crowdfunding pour pouvoir avoir les fonds, pour pouvoir produire notre revue et notre première expo. Enfin... Facebook, ça aide aussi énormément pour relayer.
Ouais. Ouais, du coup, il y a des gens qui regardent plus le site internet. On voit parce qu'il y a des likes qui sont à partir du site internet. Et il y a des gens qui regardent plus sur Facebook et qui vont à partir de Facebook. On poste une photo par article et puis qui est rédigée vers le site internet. Et puis on a des newsletters aussi qu'on envoie par mail. Enfin, ça dépend des gens qui n'ont pas de Facebook et des gens qui n'ont pas. Enfin...
En même temps, vous n'avez pas cherché la facilité, hein, Krasny.
C'est-à-dire.
Votre nom, il n'est pas facile.
Ah ouais, c'est vrai.
Et au niveau de l'orthographe, c'est pas évident non plus.
Non, ça, c'est vrai. Tout à fait.
C'est un choix. Et pourquoi d'ailleurs?
C'est parti au tout début, ça veut dire rouge, hein, donc c'est pour ça que ça me faisait marrer quand tu me disais qu'on n'était pas catégorisés. Mais c'est un nom qui date vraiment du tout début où on était très très peu nombreux et voilà, puis c'est resté. Et finalement, quelque part, cette petite difficulté-là, à un moment on s'est posé la question, hein, quand on a commencé à vraiment... s'investir et évoluer, mais finalement, c'est pas un frein, et donc ça permet quand même malgré tout.
On est pas tous,
la curiosité.
On n'est pas tous rouges, hein, mais bah, ça nous dérange pas, quoi. Enfin, bon, moi, c'est...
Là, je comprends, j'ai éclaté de rire, mais oui, du coup.
Nous, pour les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression qu'on soit trop dans ça, en fait. Voilà, peut-être qu'on devrait l'être plus, je sais pas, mais on n'est pas trop. Et comme je le disais au début d'émission, on est plus dans l'action. Du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va dans des lieux. On va faire la radio, on sort de notre studio et on s'installe, dans une salle, là où on nous propose d'aller. Et ça nous permet aussi de toucher à notre public.
Ah bah oui, c'est la même. Autre.
Mais pour les radios associatives, j'ai l'impression qu'Internet, ça aide vachement parce qu'il y a la possibilité de podcaster et du coup, écouter en ligne au bon moment l'émission qui nous intéresse vraiment, c'est hyper exigeant. Et la possibilité du podcast, vraiment, est quelque chose qui ouvre quand même les possibles de l'écoute, quoi.
Voilà, Manon, quelque chose à...
On peut peut-être, pour les gens qui nous écoutent, moi j'aimerais savoir où on peut se procurer Culte, où on peut trouver Krasny sur le net, donc je vous laisse peut-être en deux mots.
Et 48FM.
Oui, ouais, voilà. 48FM, c'est à Liège sur le 105.0. Culte, c'est, je ne veux pas citer tous les lieux de distribution, mais en général c'est dans les lieux culturels que ça se trouve, les lieux culturels liégeois. Sinon, sur le site de 48FM, vous avez toutes les infos, www.48fm.com. Et pour Culte, c'est /Culte.
Et Culte, on peut se le procurer aussi, le Culte quotidien ici au festival.
C'est ça.
Distribué.
Et puis collectif,
Krasny.
Donc, en ce qui concerne le site web, c'est www.krasnycollective.com. Krasny, donc ça s'écrit K-R-A-S-N-Y-I. Et on a notre revue Tension qui est disponible dans plusieurs librairies à Bruxelles. C'est sur le site internet. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi. Et sinon, on a la revue à notre stand dans le Village des Possibles et dans la librairie.
C'est complet. Voilà, sinon Radio Esperanza, radio.esperanza.be, Esperanza, ZAH. Hein. Et vous retrouverez d'ailleurs cette émission en podcast d'ici ce soir. Oui, carrément. D'ici ce soir, on est très...
Elle s'engage.
Ce que je disais, on est des bons élèves cette année. Tout ce qui a déjà été diffusé jusque cette nuit est podcastable. Donc voilà, on y travaille. Donc voilà, ce sera disponible. Voilà, bah merci en tout cas à tous nos intervenants.
Merci.
Krasny, Culte, 48FM, Radio Esperanza. Voilà, et on vous souhaite une bonne fin de festival et on espère vous retrouver bientôt sur d'autres médias. Là, on garde vos contacts, c'est sûr. Voilà, bah merci beaucoup et à très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.